Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
22h15, le 2 avril 1974, l'ORTF interrompt ses programmes.
Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir.
Atteint d'une forme de cancer, le chef de l'État s'éteint à l'âge de 62 ans, un choc pour les Français.
Il était malade, on le savait, mais je ne croyais pas son état aussi grave que ça.
C'est un homme formidable, difficile à remplacer.
50 ans après sa mort, Georges Pompidou, élu président en 1969, demeure associé à l'apogée des 30 Glorieuses. À l'époque, pas de chômage de masse, l'heure est au développement industriel. Du train à grande vitesse aux autoroutes, en passant par le premier vol du mythique Concorde.
La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle.
Au fil des années, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle imprime son propre style et s'émancipe de la figure de son prédécesseur.
Un conseil que le général de Gaulle m'a donné au moins 10 fois. Il me disait « Soyez dur, Pompidou. J'essaie, j'ai du mal. »
Les Français le découvrent ce jour-là dans ses appartements privés à l'Élysée. Homme de lettres, fils d'instituteur, le président Pompidou partage avec son épouse Claude, dite Bibiche, l'amour de l'art contemporain.
C'est mieux d'avoir mis les deux petits Polyakov là, tu vois.
C'est mieux en harmonie, je trouve, oui.
Bibiche.
À l'Élysée, dans le Cantal de son enfance, ou à la Maison Blanche, sa résidence secondaire, Georges Pompidou, cigarette aux lèvres, accueille les caméras, accentuant l'image d'un président moderne. Alors faut-il succomber à la nostalgie des années Pompidou? Et comment expliquer la Pompidou-mania qui s'est emparée de la classe politique?
Nos trois invités, Béatrice Guret, bonsoir madame, grand reporter au journal Le Monde. Selon vous, la nostalgie Pompidou vient du fait qu'il symbolise les 30 Glorieuses avant tout, avant le premier choc pétrolier en l'occurrence, avec une croissance qui paraît infinie et l'amélioration des conditions de vie et des conditions salariales. À côté de vous, Thomas Legrand, éditorialiste à Libération, producteur à France Inter. Bonsoir Thomas Legrand. Vous produisez notamment l'émission Enquête de politique tous les samedis à 18h, votre bande dessinée, l'histoire de la 5e République, coécrite avec monsieur Varzala et parue aux Arènes. Et selon vous, ce que l'on regrette, ce n'est pas tant Pompidou que cette époque, précisément, qui a été une parenthèse insouciante et crameuse de carbone. Il ne faut pas prétendre que l'on puisse la revivre. Et à côté de vous, Élie Cohen. Bonsoir Élie Cohen, bonsoir. Économiste, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste de politique industrielle et vous avez contribué au numéro du 1 spécial Pompidou qui sort demain. La France de Pompidou, c'était mieux avant, un point d'interrogation. Selon vous, Pompidou reste l'homme de l'âge d'or de la politique industrielle française. Mais son programme basé sur l'idée de la puissance nationale se heurte aujourd'hui, ou se heurterait, au projet européen. Et on démarre avec la déclaration du jour.
Oui, elle est bien sûr signée Georges Pompidou. Hein. « Je souhaiterais que les historiens n'aient pas trop de choses à dire sur mon mandat. Les pays heureux n'ont pas d'histoire. » C'était juste après son élection à la présidence de la République dans un entretien à Paris Match. Alors Béatrice Guret, vu la Pompidou-mania actuelle, est-ce que nous sommes soit très malheureux, soit il est le dernier grand président de la 5e République ?
Pompidou-mania, vous êtes sûr?
Comment vous décryptez cette
déclaration? Je ne sais pas s'il y a une Pompidou-mania, mais il y a un anniversaire, celui de sa mort, bon, ça c'est certain. De là à l'étendre à l'ensemble de la population française, j'ai un léger doute.
Les politiques, disons.
Voilà, alors les politiques, sûrement, les politiques de droite, surtout. Voilà.
Enfin, il a laissé un héritage, en tous les cas, on peut dire, économique et industriel.
Alors, il a laissé incontestablement un héritage économique, porté par une conjoncture mondiale. Enfin, ça, je pense que Élie Cohen en parlera beaucoup mieux que moi. Mais, évidemment, il faut reconstruire après la guerre. Et puis, après cette phase de reconstruction, il y a toutes ces avancées technologiques qui vont permettre de faire des gains de productivité ahurissants et d'avoir une croissance autour de 5%, enfin, des choses qu'on n'a plus vues depuis des décennies.
Exact.
Et qui va se fracasser sur le choc pétrolier. Mais là, après, on est dans...
73.
En fait, on est pratiquement déjà dans Giscard.
On va y venir, mais l'âge d'or, justement, Élie Cohen, un budget excédentaire, une dette très faible, un chômage à 5%, enfin, beaucoup de politiques envient cette époque-là.
Non, c'est surtout l'âge d'or industriel au sens où, à partir d'une idée du général de Gaulle, qui était la souveraineté économique s'étend au sujet industriel, la souveraineté, ce n'est pas qu'un problème de défense ou de diplomatie, c'est également la qualité de son outil productif, sa capacité à maîtriser les grandes technologies et les grandes filières industrielles. C'est à partir de cette idée du général de Gaulle de construire un véritable appareil industriel basé sur le nucléaire, l'aéronautique et le spatial, les télécoms, le ferroviaire. En gros, tous nos grands champions nationaux sont l'héritage de l'époque Gaulo-Pompidou.
Pour les nommer, Airbus, Ariane, TGV,
Airbus, Ariane,
etc.
Le plan TGV.
Encore, le nucléaire civil.
Le nucléaire civil.
Thomas de Grandvaux, vous souriez, mais souveraineté, et c'est ce qu'appelait Pompidou modernité.
Oui, et c'est très amusant d'ailleurs, dans la Pompidou-mania, il y a beaucoup de gens de droite, et il y a notamment le maire de Cannes, David Lisnard, qui se présente comme étant l'aile libérale de LR. Et quand on se souvient, Eli Cohen nous confirmera, c'était une économie très administrée, très étatique, avec un plan quinquennal beaucoup plus qu'indicatif, avec des participations de l'État partout, les sources d'énergie étaient étatisées, le prix de la baguette était fixé en conseil,
des ministres.
Donc
c'est vrai,
les salaires...
Contrôle des prix.
Des prix et des salaires, d'ailleurs. Oui. Donc, si c'est ça le modèle de la droite aujourd'hui, il faut nous le dire, parce que Mélenchon est libéral. Hein,
c'est aussi le modèle, vous allez l'entendre, d'Emmanuel Macron, l'actuel président de la République, qui exprime une certaine nostalgie.
Les années Pompidou, au fond, comme Premier ministre, puis comme président, ce sont les années de cette modernité française, c'est-à-dire d'une capacité à prendre ses risques, et à construire une histoire de progrès pleinement cohérente avec notre identité. Je crois qu'il pensait très profondément, toujours à la fois, vieille France et nouvelle France.
Béatrice Guré, c'est vrai quand même, par exemple, le nucléaire. On doit ce programme à Pompidou, c'est pas rien. Le Concorde, c'est lui.
Surtout.
Il a été dans la continuité et c'est lui, qui a développé. Il n'a rien interrompu, il a développé.
Bah, écoutez... avoir une source d'énergie propre, on parlait de souveraineté tout à l'heure, alors que d'autre part, les industries fossiles ont explosé pendant ces trois décennies. Évidemment, on ne voit pas pourquoi Pompidou l'aurait interrompu. Ce qu'il veut, c'est de la richesse, de la croissance. Il ne faut pas oublier que par rapport à l'ère de Gaulle, il y a un changement énorme, c'est qu'il n'a pas été résistant. Il a été directeur général de la Banque Rothschild. Je pense que c'est ça aussi qui donne cette
affinité avec Emmanuel
affinité
Macron.
Avec
affinité
Emmanuel
de banquier,
Macron.
D'ancien banquier.
D'ancien banquier, et pas un banquier comme ça. Il avait beau avoir fait l'ENS, il était
École
directeur
normale supérieure,
général.
Il était agrégé de lettres.
Agrégé de lettres. Il a écrit une anthologie de la poésie française, agrégé de lettres, mais il se met à l'économie très très bien. Parce que d'abord, il entre dans le cercle amical des Rothschild, il sort avec Guy de Rothschild et sa femme, il fait des dîners, il aime cette vie de luxe. On a toujours dit Pompidou, le paysan du Cantal. Oui. Alors moi, ça me fait bien rire.
Avec sa Porsche, quand même.
Avec sa Porsche.
Ah bon, je crois qu'il avait une DS.
DS officielle, mais sa voiture à lui,
c'était une Porsche.
Très bien.
Et il passait ses vacances à Saint-Tropez, ce qui défrisait beaucoup
Madame
de
Gaulle. Ce que De Gaulle lui reprochait. Oui.
Voilà.
Eli Cohen, mais c'est vrai qu'il profite de cette croissance-là, qui va se fracasser juste en 1973 avec le choc pétrolier.
Ah non, c'est pas qu'il profite, il est l'un des artisans de cette croissance. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'à partir de la grande intuition du général de Gaulle qu'il fallait que la France soit souveraine en matière industrielle, il va bâtir, lui, Pompidou, le système industriel. C'est-à-dire qu'il va favoriser les regroupements. Avant, le tissu industriel français était très fragmenté. Il est l'homme des grands regroupements, des grandes fusions, de la formation des Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, des Péchiney-Jules Kuhlmann, des Rhône-Poulenc. Il aide les rapprochements. Comment ? Par des mesures de fiscalité, pour favoriser les rapprochements, par de la commande publique. La commande publique, ça permet de donner un horizon de long terme aux entreprises qui leur permet de bâtir. Par le transfert des résultats de la recherche publique vers les entreprises privées, il a forgé vraiment des acteurs.
Ça a été un planificateur.
Ça a été un planificateur.
Rappelez pour les jeunes gens ce qu'est la NEP, s'il vous plaît. Parce que si vous faites un jeu de mots ou un bon mot, que les gens comprennent ce bon mot, Thomas Legrand.
Et des infrastructures quand même.
Et des infrastructures.
Routières, ferroviaires,
le grand programme télécom, par exemple, ce qu'on a appelé le Delta LP. On est passé en quelques années d'un état de sous-équipement qui était digne de la Roumanie,
900 km d'autoroute,
à un grand programme de télécom, mais qui a été rendu possible ça se fera après, mais qui a été rendu possible par la création du CNET, un laboratoire de recherche publique dans les télécoms, par la commande publique à un organisme public qui était la DGT, la Délégation Générale des Télécommunications. Il a vraiment bâti un système industriel.
Et on fabrique des voitures, à tout va.
Oui. Alors, on va y revenir, mais on va revenir avant cela sur une phrase qui a été prononcée. Bah, vous voyez laquelle, arrêtez d'emmerder les Français. Alors, d'où vient-elle, Anna? Vous nous expliquez
ça. C'est la phrase de Pompidou la plus connue. On est en 1966, Pompidou est Premier ministre à Matignon et il aurait sermonné Jacques Chirac, alors chargé de mission, venu lui faire signer tout un tas de décrets. La phrase en entier, telle que l'a rapportée le Parisien, la voici. Mais arrêtez donc d'emmerder les Français, il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre un peu, les Français sous-entendu, foutez-leur la paix. Alors cette phrase, elle n'a jamais été enregistrée, hein. C'est vraiment Chirac qui l'aurait rapportée, et depuis, eh bien, c'est un peu le symbole du parler vrai, et elle a été récupérée par bon nombre de politiques, François Fillon notamment, pour lui, c'est presque devenu un slogan dans la course à la présidentielle de 2017, il aurait prononcé cette phrase sous différentes formes au moins 6 fois, les réglementations emmerdent nos compatriotes, arrêtez d'emmerder les agriculteurs et puis que l'État arrête de nous emmerder. Voilà ce que m'ont dit les milliers de Français que j'ai rencontrés. 5 ans plus tard, en 2022, c'est Emmanuel Macron qui retourne cette fois-ci la phrase de Pompidou pour s'adresser aux non-vaccinés. Moi, je ne suis pas là pour emmerder les Français. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et puis, il récidive plus récemment, c'était au Salon de l'agriculture. Il faisait référence aux normes qui étouffent ces agriculteurs. Et devant eux, il déclare, moi, je dis, arrêtons d'emmerder les Français. Et puis, cette expression, eh bien, elle est aujourd'hui aussi reprise à gauche. Marie Toussaint, eurodéputée écologiste, elle a déclaré fin janvier, nous, les écologistes, nous ne sommes pas là pour emmerder le monde, mais pour le sauver. Je n'ai jamais autant dit emmerder.
Surtout
à la télévision. Exactement. Thomas Legrand, 58 ans plus tard, on voit qu'elle est récupérée par bon nombre de politiques, mais est-ce qu'elle a le même sens qu'à l'époque de Pompidou, cette
phrase ? Non, mais parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de nostalgie de l'époque où il n'y avait pas de normes, de l'époque où on pouvait fumer, et la photo que vous êtes en train de montrer.
Il y avait la clope au bec en permanence.
C'était quand même l'époque où Michel Piccoli assis sur le lit d'hôpital de...
D'un film de Claude Sautet, non ?
Oui, fumer des clopes. Vous voyez, ce matin à la radio, il y a un vieux journaliste qui m'a dit ma mère m'a raconté que quand je suis né, la sage-femme avait une clope au bec. Bon, il n'y avait pas la ceinture, on n'emmerdait pas les Français, mais il y avait 15 000 morts par an.
Sur les routes, par
sur les routes, avec 2 fois moins de voitures.
Oui, c'était aussi un truc de proximité. Donc, il y avait. Avant le
principe de précaution, avant ces choses-là, est-ce qu'on peut revenir à pas de ceinture, pas de limitation de vitesse ? Il y aurait des morts partout, ça serait terrible. Est-ce qu'on pourrait revenir à, sur toutes les interdictions de clubs, de choses comme ça, de fumée ? Donc, c'est un peu démago. En fait, je pense que tous ceux qui sont là-dedans et qui rêvent d'un monde avec que des Lino Ventura et des Bernard Blier, ils se souviennent de leur jeunesse. Voilà. Mais dans leur jeunesse, moi, je leur montre souvent, c'est des conservateurs. Et je leur dis, vous savez, le parvis de Notre-Dame était un parking.
Et puis, il y a des contradictions chez Pompidou. Il est le pionnier pour le ministère de l'Environnement, mais il veut bétonner la France.
Cadre de vie.
Et il invente le périphérique, c'est ça. Donc, il y avait énormément de contradictions.
S'il n'était pas mort en 74, le canal Saint-Martin et le canal de l'Ourcq, ça serait une 4 voies.
Donc ils sont dans le centre de Paris, il faut le dire pour les Parisiens.
Oui,
ils sont
privilégiés. La place.
Presque. Mais Béatrice Guret, pour revenir quand même sur cette phrase-là, c'était un symbole de proximité, comme le disait Anna. 55% de bonnes opinions à sa mort. Il semble à ce moment-là.
Quand vous êtes mort, vous êtes toujours populaire.
Oui, d'accord. Non, mais à ça, alors, c'est juste. Non, mais avant, j'ai fait quelques. Voilà, le jour même.
Pardonnez-moi
le raccourci. Mais il y avait quand même cela, ou pas ?
Oui, pas emmerder les Français, je crois, pour être très précise, que c'était sur une histoire de limitation de vitesse aussi. De. La voiture, il en était fou, il adorait les bagnoles. Et donc, il fallait pas emmerder ses compatriotes. Sauf que, comme l'a dit très justement Thomas, quand il y a eu les grands plans de sécurité routière, le nombre de morts a drastiquement diminué. Le port obligatoire de la ceinture devant, derrière, ça aussi, ça a fait diminuer le nombre de morts. Les radars, bien entendu. Donc, et c'est aussi, moi je le vois aussi, en fait, comme une preuve de son libéralisme. Vous savez, le laisser-faire, laisser-passer de Guizot. Bon, on ne peut pas comparer, hein, évidemment. Je vais me faire engueuler par mon ancien prof de Sciences Po.
On va voir ce qu'il va dire. Bah, on va voir ce qu'il va dire, Eric Cohen.
Mais oui, il est quand même... Oui. Alors, il est de fait... il a une conception de l'État qui est quand même relativement dirigiste, ça c'est vrai, mais en même temps, tout ça c'est donner un cadre pour y aller, pour laisser l'initiative individuelle et pour laisser les entreprises faire du profit. Voilà, c'est plutôt cet esprit-là. Oui.
Mais l'icône, c'était quoi alors? C'est un libéral,
c'est ça,
vraiment.
C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire, c'est lui qui met en œuvre, en gros, en France, le modèle colbertiste, avec cette planification, ses grands programmes, ses grands projets, ses champions nationaux. Et en même temps, l'Europe et le grand moteur de l'intégration sont en marche. Le général de Gaulle a accepté les compromis, et donc le marché commun a démarré. Et donc là...
À son initiative, sur l'inf...
Absolument.
Sur le marché l'Angleterre.
Donc le marché commun démarre, et à partir du moment où il démarre, il y a toute une série de politiques protectionnistes, de préférences nationales, de contrôle, des prix, d'échanges, etc., vont progressivement disparaître. Et donc le nouvel ordre libéral qui s'installe, bah, il se fait du temps de Pompidou. Et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire il aura été à la fois l'homme de l'incarnation du projet gaulliste et celui qui a mis en œuvre la libéralisation comprise dans le programme du marché commun.
C'est un libéral, vous me corrigez si je dis une bêtise, c'est un libéral prêt-à-tacherien, c'est-à-dire pour lui, l'État n'est pas un problème.
Ah non.
Alors que le libéralisme tel qu'on l'entend après les années 80, c'est-à-dire Reagan, Thatcher et les néo-libéraux, n'a pas la même acception que le mot
parce
libéral.
Que ça c'est un pré-Thatcher.
Oui, c'est-à-dire que l'État est un stratège, mais effectivement pour que l'initiative soit boostée. Mais l'État reste quand même central. D'ailleurs, il n'était pas du tout, il n'était pas pour la décentralisation du tout. Non, c'était un déconcentreur, mais pas un décentralisateur.
Alors, je vous propose qu'on vous soumette une archive où l'on voit la réaction de Georges Pompidou à nul autre pareil lors d'une conférence de presse à propos d'un événement, le suicide de Gabriel Russier, cette jeune enseignante qui avait une relation amoureuse avec un mineur et qui s'était donc suicidée après avoir été condamnée. Elle avait 32 ans. Regardez.
Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire. Ni même... que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs.
Il y avait du panache quand même, Béatrice Guéret, mais sur le fond, tout de même, on dit qu'il n'était pas progressiste en termes de société, de thèmes de société, mais tout de même, là, ce qu'il dit, ce n'est pas rien. Il prend le contre-pied d'une opinion.
Il prend le contre-pied de l'opinion avec beaucoup de courage, de sincérité,
d'émotion,
ce qui est quand même très rare en politique. Je pense que ce qu'on vient de voir, c'est un moment... très particulier, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et là, c'est le littéraire qui parle. D'ailleurs, il cite Éluard et il est enseignant. Et il faut regarder aussi ça, son origine. Ses deux parents étaient enseignants, lui-même est enseignant. L'attitude qu'il adopte en 1968, elle est beaucoup imprégnée de ce filtre. Et il s'agit d'une enseignante. Et donc, il se sent, voilà, Gabriel Russier, et il se sent le protecteur des enseignants, d'une certaine façon.
Mais Thomas Legrand va nous dire, ce n'était pas un réformateur au niveau sociétal. Et bizarrement, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a été le grand réformateur historique.
Il a fallu
avec l'IVG,
avec... qu'il s'en aille, qu'il meure, pour que le droit de vote à 18 ans, l'IVG, c'était un conservateur.
Enfin, grâce à Simone Veil, pas mal quand même.
Oui, Simone Veil, mais enfin, c'était sous Giscard, avec la sentence de Giscard. C'était un conservateur qui pensait, je pense, c'est un conservateur éclairé, comme on dit, qui pensait que c'est peut-être pas à l'État de donner le... Il faut suivre la société, c'est-à-dire la société, elle avance, et il le montre dans cet extrait... il est pas rétif à l'avancée de la société, mais visiblement, il ne considérait pas que c'était à l'État ou au pouvoir politique de marquer des étapes sociétales, comme c'est maintenant le cas avec nos présidents.
C'est étrange, parce que en même temps, c'était un homme qui était en matière culturelle, en matière littéraire. En matière...
Un pionnier.
Un pionnier, et je dirais même un avant-gardiste. C'est lui qui a ouvert toutes grandes les portes des palais officiels pour l'art le plus moderne, le plus disruptif.
Il avait les deux.
Oui, mais justement, il a été...
Il a été contesté à l'époque pour cela. Rentré Vasarely, notamment, à l'Élysée.
Voilà, il a acheté son premier tableau à 18 ans de Max Ernst.
Il a cette capacité d'être à la fois un avant-gardiste, un conservateur moral et un profond novateur en matière économique et industrielle.
Mais on le voit très bien dans l'histoire Paulin, Pierre Paulin.
Le designer de meubles.
Quand il entre à l'Élysée, tout ça lui paraît absolument suranné, compassé, etc. Et de fait, ça l'est.
Vieillot.
Et de fait, il fait rentrer Pierre Paulin, qui est un designer de gauche, à l'Élysée, qui fait une véritable révolution dans la décoration de l'Élysée. Mais ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas seulement le fait de se démarquer de son prédécesseur, parce que, évidemment, dans la première année, on a toujours envie de se démarquer de son prédécesseur. Ouais. Mais c'est aussi qu'il dit à Paulin, qui entend tout à fait ce langage, moi, je voudrais que ce que vous montrez là, qui est de la création, ça ait une traduction industrielle. C'est-à-dire qu'on ait des industriels français qui sachent, aussi bien que les Italiens, parce qu'on s'est fait dépasser par les Italiens depuis longtemps, qui sachent faire ces meubles, qui sont très particuliers, parce que c'est des tubulures en métal, avec c'est que des matériaux modernes, faits avec du pétrole, bien sûr.
Oui.
On y revient, les contradictions.
Parce qu'il nous reste peu de temps. Et Thomas Legrand, qui est son héritier en politique? Parce que d'après ce que vous nous dites là, il y a quand même une forme de « en même temps ». Alors vous me dites, il n'est pas complètement réac, il est conservateur, mais pas réac. Il est pour l'État, mais en même temps, il veut laisser l'entreprise privée prospérer. Alors il y a une forme d'en même temps ou pas? Celui qu'incarne, que veut incarner aujourd'hui Emmanuel Macron?
Je ne pense pas qu'on puisse désigner un successeur. Ça serait assez anachronique. Évidemment, ils ont tous envie de lui ressembler. Parce
mais pourquoi
qu'il y a une sorte de...
La faconde.
Il y a une sorte de faconde, il y a une sorte de... Surtout, il arrive à incarner la culture française. Il est à la fois très classique, normalien, et tourné vers l'art moderne.
Pourtant, la nuance, c'est quand même pas
la
mode aujourd'hui.
Et puis, on a envie de le copier maintenant, parce qu'on le voit de loin. Mais à l'époque, je ne suis pas sûr du tout que les... voilà, le temps a fait le tri.
Est-ce qu'il est aussi plus difficile aujourd'hui de s'en référer, j'allais dire, à De Gaulle, dans les temps qu'on connaît? Peut-être que il y a encore 5-10 ans, on parlait de c'est la grande référence, Eddie Cohen, c'était le général de Gaulle. Et là, aujourd'hui,
c'est toujours, mais enfin, personne n'est capable de sauver la France deux fois avant de devenir président pour...
Eddie Cohen
Les temps ne sont plus les mêmes.
Je dirais qu'il a tiré le meilleur parti de son temps. Il a été celui qui a fait advenir toute une série de possibilités, toute une série de virtualités, effectivement dans un contexte de croissance qui était un croissance générale, mais il a réussi à donner une touche particulière à cette croissance en forgeant les institutions et les acteurs qui ont permis un développement et un rattrapage exceptionnel, notamment pour tous les équipements publics qu'on mentionnait tout à l'heure et pour l'apparition de grands acteurs qui étaient au départ industriels nationaux et qui ont pris leur envol pour se développer au niveau international.
Libéraliser les médias quand même. Il aurait pu peut-être écouter Chaban Delmas avec sa nouvelle société, une société un peu plus horizontale.
C'était un peu le rival. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour autour des causes de cette fixation sur Georges Pompidou que d'aucuns évoquent comme une Pompidou-mania. Merci encore.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.